Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Sport. On est ensemble pendant près d'une heure pour parler de sport à Angers et partout ailleurs. On est ensemble ici avec un effectif assez garni puisque nous avons donc une équipe au complet avec même un petit bonus avec Faustin qui est avec nous. D'abord, je vais présenter celui qui est à la régie puisque Max y est aujourd'hui. Salut Max.
Bonsoir Alex et bonsoir à tous nos éditeurs. Comment ça va aujourd'hui Alex?
Eh bien ça va et toi?
Ben écoute, en pleine forme pour une émission spéciale basket.
Et oui, spéciale basket, je vais présenter nos invités juste après. Cédric est en face de moi, salut Cédric.
Salut tout le monde.
En forme malgré cette semaine un peu compliquée pour le hockey?
Ouais, bah, la saison est finie mais ça a été une belle saison.
Ouais, ça a été quand même une belle saison. On en reviendra juste après. Et Faustin est avec nous, notre petit nouveau de l'équipe. Salut Faustin.
Salut.
Tu nous proposeras une chronique sur les playoffs de NBA qui ont déjà démarré avec les play-in, ouais, je sens, il ça. Me semble. On en parlera donc juste après le 1-2. Et donc, on va présenter nos invités du jour. Ils ont récemment été sacrés champions de France. De N1, des deux joueurs de l'EAB, donc Tim Ebo qui est là. Salut Tim.
Salut.
Alors si tu peux juste parler, rapproche-toi du micro.
Salut.
N'hésite pas à le prendre en main, voilà. Et donc voilà, donc avec une très belle tignasse rose qui, à mon avis, a été faite pour célébrer la victoire, c'est ça?
Célébrer la montée en Pro B, ouais, effectivement.
Qui a été un grand succès donc pour l'EAB. Et un joueur américain est avec nous, c'est Akemji Williams. Hello Akemji.
Hello.
On fera l'interview en deuxième partie d'émission après la pause musicale. Je m'occuperai de la traduction et des questions en anglais et en français. On va commencer sans plus tarder. Max, si tu es prêt, avec le 1-2 et donc je te laisse débuter.
Ouais, et comme à notre habitude, on va parler de football d'abord avec un petit point sur le SCO qui jouait ce dimanche à Nantes pour un derby et les Angevins menaient au score 1-0 avec un super but signé Sofiane Boufal et finalement les Nantais ont réussi à égaliser par l'intermédiaire de Koulibaly, score final 1-1. C'est un bon point pris les gars dans cette lutte, on le rappelle, pour le maintien. Et si on regarde le classement, le SCO est toujours 14e avec 34 points, Clermont qui est nouveau 18e et donc barragiste à 29 points, donc 5 points d'écart entre le SCO et la 18e place. Et le prochain adversaire du SCO risque d'être un très très gros puisque c'est le Paris Saint-Germain qui se déplacera au stade Raymond Coppa. Un Paris Saint-Germain décimé, il me semble qu'il n'y aura pas Neymar, pas Messi, pas Verratti et beaucoup de joueurs absents. Donc ça va être très compliqué de gagner des points sur ce match-là, messieurs.
Enfin, tu dis un bon point, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'était quand même un derby.
Oui,
ouais, c'est un derby gagner. Et derrière tu joues PSG. Tu sais que tu vas perdre 3 points quasiment sûr. Mmh. Et ouais, derrière, tu joues Clermont.
Vu la forme actuelle du SCO, même si c'est 1 point et que que Nantes a égalisé en deuxième période, je pense que tous les points sont importants jusqu'à cette fin de championnat.
Ah, je pense que ce que Cédric veut dire, c'est qu'il y a un peu la frustration.
Oui, évidemment, je comprends.
Contre l'ennemi.
Évidemment.
Non, mais au-delà de ça, c'est que tu dois pas te contenter du match nul quoi, pour le maintien. On voit que c'est hyper serré et là tu joues Clermont dans 15 jours. Clermont, c'est pas
les matchs décisifs, ça va être Clermont, Bordeaux, Clermont et Metz.
Oui, et entre temps tu joues Monaco,
Paris, Monaco, ouais.
Voilà, et enfin tu joues à Montpellier qui aura quasiment plus rien à faire, donc je suis pas sûr que ce soit un si bon résultat au final d'un point de vue
L'avenir nous le dira.
L'avenir nous le dira. À noter la très très grosse performance d'Anthony Mandrea dans les buts, ouais. qui a vraiment fait un grand match. Lui qui était numéro 3 en début d'année, qui là brille sous les couleurs angevines. Et très, moi je trouve très beau but de la part de Sofiane Boufal avec une belle passe aussi de Unai, il faut le préciser. On va enchaîner avec le basket. On va parler des trois clubs professionnels du Maine-et-Loire avec, pour commencer, l'UFAB qui disputait un match à Basketland donc ce week-end. Les joueuses de David Gauthier se sont inclinées malheureusement 89 à 74. Angers est toujours 7e avec une victoire d'avance sur le 8e Lattes Montpellier et 2 sur Tarbes 9e. Donc voilà, deux victoires d'avance sur les play-downs. Ça devrait plutôt le faire pour les Angevines pour disputer les playoffs. Pour le AB, voilà, le AB, on en parlait la semaine dernière, qui avait déjà remporté le titre de NM1. La suite de l'aventure, donc il restait deux matchs contre Caen et contre Chartres, et les deux matchs ont été remportés par les Angevins. Tout d'abord avec une victoire à domicile devant près de 3000 spectateurs, donc avec la victoire contre Caen 84 à 76, et puis c'était vendredi la dernière victoire de la saison à Chartres 83 à 78. On en parlera évidemment plus tard avec nos invités. Et on termine sur le basket local avec Cholet Basket qui s'est imposé contre Bourg-en-Bresse 100 à 86. C'est la troisième victoire de suite pour les Choletais qui sont actuellement 10e à égalité avec donc le 9e, et ils sont à une victoire du 8e, hein, donc les places qualificatives pour les playoffs. Donc c'est pas encore fini, match ce soir d'ailleurs à la Meilleraie contre le Portel.
Et on va passer maintenant à la page hockey sur glace avec les Ducs d'Angers, hein, l'une des très grosses actualités de cette période. Je vais te laisser en parler, Cédric, puisque la semaine dernière, mardi dernier, on était la veille du cinquième match, il me semble, entre Grenoble et les Ducs d'Angers pour cette finale des playoffs de la Ligue Magnus, et les Angevins ont perdu 5-1, donc victoire finale de Grenoble. Est-ce que, Cédric, sur la saison, tu dirais que c'est mérité? Je pense que oui.
Oui, c'est logique. On retrouve le podium de la saison régulière. Donc, pas forcément de grosses surprises d'avoir les deux équipes en finale. Grenoble, j'ai pas les statistiques, mais ça doit être très peu de défaites dans la saison. Si on doit leur dire un petit point négatif, c'est peut-être leur parcours en Europe, qui a été moins bon que Rouen. Mmh. Au final, mais en tout cas sur le point de vue national, il n'y a rien à dire, ils étaient largement au-dessus pour, ils méritent le titre, quoi. Surtout que là, voilà, ça s'est joué quand même assez vite, à la 13e minute, le premier but à domicile. Derrière, il a fallu aller chercher l'égalité, il fallait tenir, aller chercher la victoire, c'était compliqué. On savait que de toute façon, si ça passait, il y avait un match supplémentaire à la maison.
Quoi qu'il arrive, ça allait être compliqué.
Voilà. Donc si on l'avait gagné, je pense que même derrière, ça aurait été compliqué peut-être d'enchaîner une deuxième victoire à domicile. Le seul côté qui aurait eu sympa, c'est que au moins, on aurait vu la coupe chez nous.
Ouais, c'est ça.
Au moins pour qu'elle soit remise à Grenoble, mais... C'est dommage, mais ça gâche pas la saison.
Ouais, et justement, tu fais bien d'en parler. On va refaire un point sur cette saison des Ducs qui s'est donc achevée mercredi dernier. Donc les Ducs finalistes de cette Ligue Magnus et champions de la Coupe de France. On le rappelle une nouvelle fois parce que c'est quand même un très très gros parcours que les Ducs nous ont fait en Coupe de France. Et donc, comme tu l'as dit, Cédric, ils ont clôturé une bien belle saison, nos Ducs d'Angers.
Ouais, et puis c'était vraiment la première saison complète.
Ouais.
À l'Ice Park et
avec le retour du public.
Le bilan, voilà, ne serait-ce que du côté public, c'était toujours un match comble. Donc c'est encourageant pour les saisons à venir. Maintenant, ça a même déjà commencé. Il va falloir travailler pour trouver de nouveaux joueurs, trouver de nouvelles solutions, nouvelles tactiques de jeu, tout ça. Mais en tout cas, on a hâte d'être à la reprise, quoi.
Ouais. On suivra ça de près, évidemment.
Évidemment. On termine sur les actus locales avec trois petites infos. Tout d'abord, on va rester sur le hockey sur glace avec le championnat du monde féminin qui va débuter à l'Ice Park le 24 avril prochain. Il se terminera le 30 avril. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour à l'Ice Park pour supporter l'équipe de France.
Surtout que là, oui, on a la chance d'avoir l'équipe de France féminine qui va jouer donc à l'Ice Park. Les places sont quand même, il doit encore en rester. C'est relativement accessible pour une compétition mondiale, abordable. Voilà. Ouais. Et sinon, voilà, pour ceux qui voudraient le regarder, ça va être diffusé de sûr sur le site FanSite qui diffusait la Ligue Magnus.
D'accord. Eh bien, c'est noté. Un autre événement qui se déroule d'ailleurs actuellement sur Angers, c'est le tournoi Futur cette semaine donc à La Baumette, donc au complexe sportif donc de La Baumette. Il sert à regrouper les meilleurs jeunes joueurs de tennis du circuit. Voilà, il y a notamment le frère de Stefanos Tsitsipas pour l'anecdote qui va participer au tournoi. Et donc voilà, c'est un tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs du monde. Et puis une autre info au niveau du kayak, avec une ancienne invitée qui a connu une petite désillusion ce week-end. Pauline Frélon a terminé sa carrière en descente par une non-qualification pour les mondiaux, mais elle continue donc son objectif de progresser en course en ligne. Hein. C'est cette discipline qui va potentiellement la faire disputer les Jeux de Paris 2024, avec donc les sélections de l'équipe de France qui débutent cette semaine.
On va passer maintenant du côté des actualités nationales et internationales. On va d'abord ouvrir la grosse page football. On va balayer les résultats de la semaine et du week-end en Ligue 1. Tout d'abord avec Monaco qui a battu Rennes, qui a fait un très gros coup. Hein, Monaco, victoire donc face au Stade Rennais, 3-2. Saint-Etienne sort de cette 18e place de barragiste après sa victoire 2-1 face à Brest. Lens bat une nouvelle fois Lille. Cette saison, victoire des Lensois 2-1. Nice se relance avec une victoire 2-1 face à Lorient. Nantes et Angers, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont quittés dos à dos sur un 1 partout, tout comme Metz et Clermont et 3 et Strasbourg. Montpellier et Reims ont produit et ont donné un match nul, un score pardon, nul et vierge 0-0 entre les deux équipes. Le gros score de cette journée de Ligue 1, c'est Lyon qui a battu Bordeaux 6-1. Et puis enfin, on avait le droit à un classico dimanche soir, un classico qui n'a pas rendu les spectateurs joyeux, voilà, et au final une victoire parisienne 2-1. Il y a eu de la Ligue des Champions également cette semaine, si je me trompe pas. Le Real Madrid a perdu. Alors oui, c'est bien cette semaine, hein, je me trompe pas. Le Real Madrid a perdu 3-2 face à Chelsea, mais s'est qualifié pour les demi-finales. Et donc finalement, ces demi-finales qui se dérouleront la semaine prochaine. Manchester City recevra le Real Madrid et Liverpool recevra Villarreal qui a éliminé le Bayern de Munich. Et du côté des clubs français qui étaient encore en lice en Coupe d'Europe, l'Olympique Lyonnais a perdu 3-0 dans ce quart de finale retour face à West Ham et donc éliminé de la Ligue Europa. Et l'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les demi-finales de cette Ligue Europa Conférence après sa victoire 1-0 face au PAOK.
On va enchaîner avec le cyclisme et Paris-Roubaix. Après la victoire de l'Italienne Elisa Longo Borghini la veille donc dans l'épreuve féminine, le Néerlandais de chez Ineos Dylan Van Baarle a remporté Paris-Roubaix donc ce dimanche, et grâce à ce succès donc dans l'enfer du Nord, le coureur glane ainsi son premier monument en devançant Wout Van Aert et Stefan Kung.
Et on va se quitter sur un mot de tennis, puisqu'il y avait le Master 1000 de Monte Carlo qui s'est achevé dimanche dernier. Alors on a parlé hein, de l'élimination prématurée de Djokovic, également de tous les Français. Et au final donc c'est Stefanos Tsitsipas, le grec numéro 3 mondial, qui a remporté le Master 1000 de Monte Carlo.
Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur l'info locale et internationale, et on va terminer avec la chronique de Faustin qui va nous permettre de faire un point sur la NBA et les playoffs qui donc ont déjà débuté avec déjà de grosses surprises. On en a parlé avec l'élimination des Lakers. Faustin, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Tu fais la chronique à sa place.
Ouais, tout à fait. Du coup, mercredi, le play-in a démarré donc. Comme tu l'as dit, sans les Lakers qui se sont fait prendre la 10e place par les Spurs, qui n'ont finalement pas réussi eux non plus à se qualifier pour les playoffs, car ils se sont fait sortir dès leur premier match contre les Pelicans, qui ont eux ensuite gagné contre les Clippers et qui ont assuré leur place en playoffs. Ils joueront face à Phoenix, où ça va être très compliqué pour eux, étant donné que Phoenix ayant fini premier de en saison régulière, et ils ont vraiment roulé sur toute la ligue. Donc je les vois mal même prendre ne serait-ce qu'un match. Okay. Ensuite, on a vu Brooklyn gagner contre les Cleveland Cavaliers, et ce qui leur a assuré eux leur place de leur côté aussi en conférence Est. Ils joueront face à Boston. C'est une série qui a d'être très serrée. Boston a déjà pris le premier match sur un buzzer beater de Jason Tatum. Voilà. Ensuite,
tu peux peut-être expliquer ce que c'est du coup le buzzer beater pour les gens qui connaissent
pas. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, un buzzer beater, c'est quand la balle rentre pendant le buzzer, donc c'est-à-dire pendant la fin du match. La balle est encore en l'air, donc le panier va compter, ce qui va permettre à l'équipe qui met le panier de passer devant aux toutes dernières secondes. Donc voilà. Ensuite, Minnesota, se sont eux aussi qualifiés contre les Clippers. Ils joueront eux contre Memphis. Le premier match a eu lieu il y a 2 jours. Ils ont réussi à gagner Minnesota alors qu'ils sont pas favoris face à Memphis, surtout qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Parce qu'en playoff, en fait, ce qui se passe, c'est que les équipes étant le plus haut classé jouent d'abord les 2 premiers matchs à domicile, puis à l'extérieur. Puis les 2 prochains à l'extérieur, puis ils en rejoignent à domicile, puis à nouveau un à l'extérieur s'ils n'ont pas déjà gagné leurs 4 matchs, et enfin un dernier à domicile. Donc voilà pour si c'est placé en play-in. Maintenant, je vais revenir sur chacune des séries en cours. Donc j'ai démarré à l'ouest, où j'ai déjà parlé de Phoenix contre les Pelicans. Ensuite, on voit qu'il y a Dallas contre Utah, donc c'est censé être la série la plus serrée de la conférence Ouest, étant donné que c'est le 4e qui affronte le 5e, et c'est en effet ce qui se passe, car il y a un partout actuellement dans la série. Le prochain match aura lieu le 21, sachant que Dallas est orphelin de leur meilleur joueur Luka Doncic. Ils ont quand même réussi malgré ça à prendre un match face au Utah Jazz de Rudy Gobert. On a ensuite la série de Golden State Warriors, l'équipe de Stephen Curry, face à celle des Denver Nuggets. C'est donc le 3e contre le 6e qui s'affrontent ici. Les Golden State gagnent 2-0. Donc ils gagnent 2-0, sachant que c'est un retour de blessure pour Stephen Curry. Ça faisait un mois qu'il était absent. Et dès le deuxième match, il a déjà pris feu. Il a mis 36 points, voilà. Donc ça va être très compliqué ici pour Denver, à voir ce qu'ils vont faire quand ils seront chez eux. Maintenant, je vais passer à la conférence Est. Le premier match, c'est Miami contre Atlanta. Donc c'est le premier contre le 8e. Là aussi, c'est censé être une série à sens unique, plus ou moins, car Miami est censé prendre le dessus assez facilement face à Atlanta. Après, on a le 4e contre le 5e, donc c'est Philadelphie contre les Toronto Raptors. Personnellement, mon club de cœur, c'est Toronto, et du coup j'ai du mal à être objectif sur cette série, mais Philadelphie a déjà pris les 2 premiers matchs, mais c'était pas tellement avec la manière, je trouve, et du coup on attend de voir ce qui va se passer du côté de Toronto, s'il va y avoir une réponse ou quelque chose comme ça, sachant qu'ils sont eux aussi orphelins d'un de leurs meilleurs joueurs, Scottie Barnes, leur rookie. Ensuite, donc le 3e contre le 6e, c'est Milwaukee contre Chicago. Milwaukee qui ont au sein de leur équipe Giannis Antetokounmpo, le MVP de la saison 2020-2021, qui est en lice pour finir MVP d'ailleurs cette saison. Pour l'instant, ils mènent 1-0 dans la série face à Chicago. Chicago qui était en hausse au début de la saison, mais vers la fin de la saison, ils se sont vraiment écroulés. Ils étaient 3e à la place de Milwaukee. Ils sont descendus 6e au bord du play-in. Donc je les vois très mal décrocher ne serait-ce qu'un match. Et voilà, et après du coup, j'avais déjà parlé de la série Boston contre Brooklyn. D'ailleurs, je compte faire un point sur Milwaukee qui a fini 3e et Boston 2e. En fait, on peut voir que Milwaukee, sur les derniers matchs, ils ont fait plus ou moins exprès de perdre des matchs pour finir 3e, pour être sûr de ne pas affronter Brooklyn, qui est une des meilleures équipes, malgré qu'elle soit dans le play-in, parce que durant la saison, elle avait eu beaucoup de problèmes avec des joueurs blessés, ou bien avec, par exemple, Kyrie Irving, qui ne voulait pas se faire vacciner, et qui pouvait donc pas jouer du tout au début de la saison. Voilà, okay. C'est tout pour moi.
Bah, c'était une très belle chronique qui nous a permis de faire le point sur les playoffs. Ton prono par rapport à justement cette fin de saison en NBA ?
Moi, je vois vraiment Phoenix rouler sur tout le monde, mettre des sweeps.
Il y a Tim qui approuve dans les studios.
Ah ouais, clairement.
Ouais, du coup, Phoenix, toi, favori. Ouais, et pour tes petits favoris de Toronto?
Moi, j'aurais aimé les voir déjà battre Philadelphie et après affronter Miami. Ça risque d'être très complexe pour eux parce que en face, c'est quand même du très bon niveau. Et... Mais j'aimerais bien les voir au moins ouais, battre Philadelphie.
Bon, bah, on suivra
Boston,
ça.
C'est, quand même, c'est souvent solide en playoff.
Ouais, après, ils ont un effectif quand même assez jeune, j'ai envie de te dire, avec bah, Jason Tatum, même si au fur et à mesure, là, quand même, ils prennent pas mal d'expérience. Mais c'est vrai que aussi, ils ont. Bah, cette nuit, là, il a annoncé le défenseur de l'année. Donc,
ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, apparemment, c'est assez contesté que ce soit pas Gobert, enfin Rudy Gobert. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense que c'est pas tant que ça contestable, parce que franchement, c'est Marcus Smart, du coup, c'est un meneur. Ça faisait déjà depuis 1996 qu'il n'y a pas eu un meneur défenseur de l'année. Et franchement, il fait une très belle saison défensive. Ça fait même plusieurs saisons qu'il fait ou qu'il n'est pas récompensé sa juste valeur, je trouve. Rudy Gobert, je pense que si il lasse un peu les fans et même les journalistes qui votent pour ses défenseurs, ou voilà.
Ouais. Et apparemment, c'était aussi parce que l'Utah Jazz n'a pas forcément fait une bonne saison aussi, non? C'est pas ça?
Ouais, c'est vrai que la perf en saison, la perf collective, elle compte. Ouais. Mais bon, ils ont fini 5e, Boston a fini 2e sur le fil à la fin. Je pense que c'est pas ça qui a tellement joué.
Ok, eh bien, on suivra donc toutes ces actus autour de la NBA donc, dans les prochaines semaines. On va passer à la pause musicale. Max, qu'est-ce que tu nous as préparé?
Oui, et avant de parler basket avec notre émission spéciale EAB, on va écouter un titre de Juice WRLD, on va s'écouter Robbery, et on se retrouve juste après pour la suite de Génération Sport.
Strong as fuck, boy. She told me put my heart in the bag, and nobody gets hurt. Now I'm running from your love. I'm not fast, so I'm making it worse. Now I'm digging up a grave for my past. I'm a whole different person. It's a gift and a curse, but I get. Fast, so
de retour dans Génération Sport jusqu'à 21h hein, pour parler de l'étoile Angers Basket avec nos deux invités, Tim Ebo et Hakim J. Williams, qui sont ici avec nous donc dans les studios pour célébrer ce titre de champion de France de National 1 et cette promotion en Pro B qui est amplement méritée. Avant de revenir sur la saison, avec Max, on va parler donc du parcours de ces deux joueurs, Tim et Hakim J. Max va vous faire un peu l'interview, en tout cas le parcours de Tim, et puis moi je m'occuperai de Hakim J. Pour Hakim J, on fera les questions en anglais et en français.
Ouais, on essaiera de se débrouiller pour que tout le monde puisse bien comprendre. Du coup, Tim Ebo, arrête-moi si je me trompe, t'as d'abord débuté à Limoges en catégorie de 20 U21, ensuite t'as goûté au club pro de Limoges, t'as même goûté à la première division. Ensuite t'es parti à Blois où t'as goûté à la deuxième division que tu vas retrouver l'année prochaine avec l'EAB, on aura le temps d'en parler. Après t'es parti au Stade Rochelet, ensuite tu étais à Pornic et enfin tu as atterri à Angers. Est-ce que j'ai tout bon?
Presque tout bon.
J'ai fait une erreur, évidemment.
Non, c'est que peut-être que voilà, t'avais pas l'info, mais avant, du coup, Limoges, j'étais en Dordogne.
Ok.
J'ai fait 4 années en Dordogne, 2 saisons au Lardin Basket Club, qui est encore en activité, ce club-là, qui est présent chez les filles notamment. Et ensuite, j'ai fait 1 saison à l'AOL Périgueux. Et la saison d'après, j'ai fait 1 saison. C'était une entente entre Boulazac, Le Lardin et l'AOL Périgueux en Minime France.
Ok, bon là au niveau du parcours au moins...
Là on a tout.
On a tout. Justement, on en parlait un petit peu en off pendant la pause musicale. Tu es arrivé cet été à l'EAB, donc en provenance de Pornic. Comment tu es arrivé à Angers tout simplement? Est-ce qu'on a réussi à te convaincre, ou alors c'est toi aussi qui avais des envies d'ailleurs et qui pour toi Angers c'était le meilleur projet pour toi à ce moment-là?
Au moment où je prends la décision de venir à Angers, c'est que je pensais que c'était le meilleur projet. On a eu un appel avec le coach, c'était courant avril l'année dernière, où voilà, il me disait qu'il voulait vraiment qu'on bosse ensemble, et ça l'a fait directement, et un feeling qui est passé directement, et voilà, je me suis engagé sur 2 saisons.
Ok, pour l'instant ça se passe bien j'imagine.
Bah je pense que ça aurait pas pu mieux se passer même, ouais. que de cette manière là. On est sur un petit nuage là depuis quelques jours. Je pense qu'on se rend pas encore forcément compte de ce qu'on a réalisé. On s'en rend compte petit à petit avec les... Voilà, aujourd'hui on a été reçu à la mairie, donc des petites attentions comme ça aussi qui font qu'on s'en rend compte aussi un peu. Mais c'est quand même incroyable ce qu'on a réalisé et puis on s'en souviendra toute notre vie.
Ouais. Donc mais pourtant ton aventure angevine, elle a pas si bien commencé que ça, puisque t'es arrivé au club et on en parlait justement aussi avant avant la pré-saison, tu te blesses et tu manques plusieurs semaines, plusieurs mois de compétition.
Ouais, je rate plusieurs mois de compétition. Je suis sur le côté à la pré-saison, même voilà au moment de la piste où les gars ils courent, ils se donnent vraiment. C'est les moments les plus durs de la saison et j'aurais aimé les partager avec eux. Donc c'est vrai que c'était pas facile. Après, ça m'a aussi donné l'opportunité de travailler sur d'autres aspects que bah mon physique et le basket. Donc voilà.
Et après une saison, comment s'est passée ton intégration, puisqu'on sait aussi que l'effectif a été pas mal renouvelé hein, sur ces 2 dernières saisons, que c'est un groupe où il y a des joueurs qui sont assez jeunes et même qui sont arrivés récemment dans le club. Comment ça se passe, comment ton intégration à toi s'est passée? Est-ce que finalement ça a été une intégration vraiment commune de tout le groupe?
En fait, ouais, c'est ça, c'est que ça s'est fait naturellement. Vraiment, il n'y a rien qui a été forcé. Ça s'est fait vraiment bah, au feeling, et le feeling, il est tout de suite passé entre nous. Et puis ça s'est ressenti, enfin les avis qu'on avait de l'extérieur aussi, c'est que bah il y avait un vrai groupe, et puis nous bah à l'intérieur c'était pareil, ça se faisait naturellement, donc l'intégration elle s'est faite toute seule quoi.
Oui, avant de te laisser la parole Alex pour parler avec notre autre invité Hakim J. Williams, dernière question pour toi. Tu vas jouer la Pro B l'année prochaine, mais tu y as déjà goûté, c'était avec Blois. Est-ce que tu appréhendes ou pas cette saison prochaine?
Non, au contraire, j'ai faim, j'ai la dalle angevine, comme je veux dire. J'ai la dalle et voilà, et ma saison en Pro B, la première saison que je fais en tant que professionnel, elle était compliquée. pour moi d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif, puisque Blois sortait d'une saison en tant que champion de France, et il y a eu ce petit problème d'accession. Ils ont, au final, ils n'ont pas pu accéder à la Pro A. Et c'est vrai qu'on sort sur une saison, voilà, huitième, on termine huitième, on fait les playoffs, mais on sort au premier tour. Et c'était pas une saison épanouissante du tout. Donc j'ai aussi ce goût de revanche. J'ai goûté à la Nationale 2 après avoir goûté à tout ça. Donc j'ai fait quasiment tous les étages. Donc maintenant, voilà, je sais pourquoi je suis là et j'ai la dalle.
Okay. Est-ce que tu as aussi peut-être la dalle de pourquoi pas prendre un peu plus même d'importance dans l'équipe, pourquoi pas jouer encore plus l'année prochaine? On sait que tu es jeune, tu as 24 ans, et j'imagine que tu as aussi des envies, ouais, de prendre en confiance, de prendre en maturité sur le parquet, et de jouer le plus de minutes possible.
Bien sûr, les minutes c'est important. Après, moi je trouve que cette saison, voilà, chacun avait son rôle, chacun a bien compris son rôle. Moi, mon rôle, je l'ai accepté et je me sentais hyper bien dedans. Qu'il évolue ou pas, en tout cas, ce qui compte, voilà, c'est que je sois bien dans le groupe. Pour l'instant, c'est le cas. Les minutes, ça viendra sûrement avec le temps, comme tu dis, la maturité, l'expérience, et puis voilà.
Et puis cette saison, enfin, au-delà de ton arrivée, tout ça, elle note quand même tout le travail qui a été fait sur les deux dernières années où il y avait déjà des volontés de remonter, et hélas, pour. On le sait, pour, à cause de raisons du Covid, ça ne s'est pas forcément déroulé comme. Comme ça aurait dû l'être.
Non, bien sûr.
Donc, le club, ça fait. C'est, ne serait-ce que même, voilà, le club.
Ouais. Non, le club, ça fait 5 ans qu'ils essayent de remonter, que le club a été fondé, l'Étoile Angers Basket. Avant ça, c'était Limoges ABC, je crois, et un autre club de Saint-Léonard qui ont fusionné pour faire ce club-là. Donc, comme le disait le président aujourd'hui à la mairie, c'est ça, c'est que c'est toutes ces années-là aussi qui ont été récompensées. Et c'était un objectif qui datait, de 5 ans maintenant. Donc, pour eux aussi, c'est quelque chose d'hyper important et de grand.
Et je pense, voilà, quand on est joueur, d'avoir un club qui envoie un message comme ça fort en termes d'envie, c'est vrai que c'est quelque part difficile de ne pas y aller, quoi.
Non, clairement, moi, le projet, il était hyper, hyper attrayant. Jouer la montée avec une équipe jeune, mais quand même avec des cadres qui ont de l'expérience. Je pense à Karim, je pense à Stéphane, même Roser. Donc, non, vraiment, c'était une année hyper enrichissante pour moi. Je dirais, je pense, la plus enrichissante de ma carrière jusqu'à présent. Ça fait que 4 ans que je suis pro, mais quand même, ce que j'ai pris humainement. En une année, je pense que j'ai pris plus qu'en 4 ans, donc c'est que du positif.
Eh bien, donc voilà, merci Tim pour avoir parlé un peu de ta carrière et de ton intégration à Angers. On reviendra donc sur plus vraiment le concret et la saison après la deuxième pause musicale. Maintenant, on va se retourner vers Hakim Jioulias, notre autre invité américain. Je vais vous le présenter. Alors, il a 26 ans, il est né à Détroit dans le Michigan. Il a rejoint la France en 2019 en ralliant Garonne, le club de Marmande. Donc du haut de ses 1m75, il évolue au poste de meneur et a été recruté l'année dernière par l'Étoile Angers Basket, club dans lequel il s'est révélé aux yeux du public français avec donc cette saison très pleine. Il a terminé meilleur marqueur de la saison à l'EAB, également meilleur passeur du club, deuxième meilleur intercepteur du championnat. Une saison donc plus que satisfaisante pour le meneur américain qui s'est donc très vite adapté à la vie angevine. Donc première question pour Hakim J. Tu es né aux États-Unis. Raconte-nous un peu ton parcours avant que tu viennes ici en France. So, Hakim G, first question. Tell us about the beginning of your career in the United States before you came to France.
I went to a school in Michigan, a university, Lake Superior State. It's a Division II NCAA school. It's in the Upper Peninsula of Michigan. The school, I had a great experience. At this time, I study. You study and you play sports. I study business marketing, and I also was able to play basketball at a high level to be able to start off my career to get potential professional looks because of the things that I was able to accomplish at the Lake Superior State.
Donc il a commencé sa carrière dans le Michigan, donc dans des équipes universitaires. Il utilisait notamment le business marketing à la fac. Il a pu disputer certains matchs avec les équipes universitaires de là-bas pour commencer une carrière de basketteur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France? What made you want to come to France?
Particularly, it was the only opportunity at the time that I had was in France. Yeah, there were other opportunities that wasn't for sure 100%, but my first 100% opportunity was to play in Grand. They gave me the opportunity to live out my dream and potentially make a career and to continue to get better and to potentially get to the highest level in France.
C'était avant tout une opportunité pour lui de venir à Garonne. Il a pu donc commencer dans une équipe pour progresser et pour potentiellement pouvoir un jour évoluer à un plus grand niveau, notamment en France. Comment tu as vécu cette première expérience française à Marmande? How do you feel about this first experience in Marmande?
It was a good experience. The city was a very small city, and that kind of made things a little more difficult for me. It was a good experience, but I wouldn't say it's as visiting France for your first time. I wouldn't say it's the best experience to go through as an American or as a foreigner to live in such a smaller city. Not many people spoke English, and it just wasn't many people. Many younger people in the city is a much older city. So I think I enjoyed my situation in Marmon. It was definitely a help to start my career. It was a beautiful city. I mean, coming from Detroit, Michigan, to seeing the type of building structure and the things that Marmon had to offer was a good experience. But I wouldn't say it's the best experience as far as visiting another country.
Du coup, c'était une bonne expérience, même si c'est pas forcément la meilleure ville pour commencer en France, pour visiter la France. Ça restait quand même une très belle ville, mais c'était quand même une petite ville avec peu de gens qui parlent français, peu d'habitants, peu de jeunes dans la ville. Mais ça restait pour lui donc une bonne expérience à Marmande. How did Angers convince you to come here to the EAB?
It wasn't much convincing. I had recently got an agent who speak with the agent, and because I was not able to finish a season in Marmon because of COVID, it made it a little difficult to be able to move from NM2 to NM1 in the leagues, but. I recently got to an agent, and he was able to give me some interest from a couple teams in the NM1, and wasn't really much convincing to do. It was opportunity, and I wanted to make the best of it, so I chose to come to Angers, not knowing what to expect, not knowing a player or what the team would be like. So it was just a leap of faith. Me just, trying to find my way to get where I need to go in my another step in my career to maybe a better career.
Du coup, c'était là aussi encore une fois une opportunité. Il n'y a pas eu beaucoup à convaincre. Voilà, il s'est trouvé récemment donc un agent pour pouvoir donc parler avec certains clubs français. Et du coup, il y a eu l'opportunité d'Angers. Il est arrivé sans trop savoir quel était le projet, mais surtout comment ça allait se passer, quelles étaient les ambitions de l'EAB. Voilà, au final, on a vu que ça s'est bien passé. Comment tu t'es intégré à l'équipe et à la ville? How did you fit in the team and the city of Angers?
First, the city of Angers, coming from Marmon, was a big a big excitement. I think, you know, seeing many people, their students, it's a college city, even just being able to go sit down and eat at nice places was a lot different. It was really only one bar in Marmon. So being able to, you know, venture out and see different things, like before I come, I Google the city, and the only thing I know was the castle. It's a big attraction to Ajay. So as far as the city, I love the city, and it was good to me as well. On the court, I think I fit very well for someone like myself who likes to help others, you know, score or help others just be the best that they can be. I think I fit in because I had with the team, there was a lot of guys who could, you know, who could score and who could also do other things. And I felt like my job was to help others score and just try to, you know, be a floor general on the court. And I feel like it worked out very well. From the style of play that we played was a benefit. It helped my way of playing, the fast pace, with the defense, the tough defense. Those were things that worked out as an advantage for me being on this team. And hopefully I was able to provide, I was able to provide and, you know, do something special with the team and chemistry that we have.
Du coup, par rapport à la ville, forcément, c'était une ville beaucoup plus grande, puisque à Marmande, il y avait qu'un seul bar. Et du coup, voilà, il a d'abord googlé la ville, il a vu le château en premier, et voilà, il a beaucoup aimé la ville. Il y a pas mal de choses à faire, en tout cas par rapport, encore une fois, à Marmande. Par rapport à l'équipe, il s'est bien intégré parce que voilà, il y a beaucoup de joueurs qui scorent. Il aime bien aussi distribuer, et il a également parlé aussi de la défense, la dure défense imposée par Angers cette saison. Et une dernière question avant de passer à la pause musicale. Qu'est-ce que tu penses du niveau en France en National 1? What do you think about the level in France in this championship?
The National 1?
Yeah.
Being my first time like playing any National 1 team, everything was new. You know, walking into an away game, it was my first time in the gym. Seeing the opponents, it was my first time playing against these guys, and also playing with my team. But the level was competitive. I still don't feel that it was like a much of a challenge for me, and also apparently for the team as well. The way we excelled and played, I think the going up was a good thing for the team, because I felt that the level that we played at was higher than the league of NM1, and it showed throughout the season for us to be able to start off, first off, to be able to not be chosen as a favorite in the league. To start off at a fast pace, and I think we win a lot of games straight to start, and eventually we would lose to La Rochelle. But at that point, like I kind of figured that we were a really good team, and that and for us to also go through injuries within the team and still remain number one was also a big accomplishment. So I think the level that NM1 was a good level, but I don't think it was much of a challenge for myself.
Ok. Du coup, il a donc parlé. Du coup, c'était nouveau pour lui la National 1. C'était un championnat où l'équipe était quand même au-dessus. Il en a déduit que l'équipe, voilà, était au-dessus, que c'était que le AB était à sa place en National 1 et que voilà le niveau était plutôt élevé. Mais en tout cas, qu'il sait qu'il peut encore aller chercher plus haut dans l'avenir. On va passer à une courte pause musicale. On va essayer de la faire courte.
Vu le temps, vu l'heure qu'il est, il est 20h47, je vous propose de pas faire de pause musicale, parce que je pense que nos invités ont encore beaucoup de choses à dire. Et on va d'ailleurs parler maintenant, je vais te laisser en parler, Alex, de leur saison et de ce trophée qu'ils ont été chercher au bout.
Ouais, on va parler justement du match vraiment à proprement parler de contre le Havre. Donc c'est là où vous avez appris que vous êtes champion de France. Déjà, pour remettre en contexte, Tim, comment vous l'avez appris cette nouvelle que vous étiez champion de France?
Du coup, on l'apprend à la fin du match, une fois que le match est terminé, tout le monde se serre la main, etc. Le directeur sportif Johan vient nous voir en nous disant, en explosant de joie et en disant ça y est les gars, c'est fait quoi. Donc tout de suite nous dans nos têtes on se dit Poitiers a perdu, donc ça y est on monte. Donc comme Eka a pu le dire aussi, c'est que le fait qu'on ait été dominant tout au long de la saison, ça nous permet de monter malgré la défaite. Donc c'est quand même un luxe assez conséquent. Après, la fête n'a pas été non plus comme on l'espérait, parce que vu qu'on perd, on monte sur une défaite aussi. Donc on a célébré, mais
ça a un peu gâché la fête, cette défaite.
Ça a rendu la fête différente. Je dirais pas gâché, parce que on monte quand même en Pro B, ça reste quelque chose d'énorme. Ouais. Donc c'était différent de ce qu'on avait imaginé.
Et puis il y a le fait que c'était à l'extérieur.
Aussi, il y a le fait
que si ça avait été à domicile, défaite ou pas, victoire, il y aurait eu l'ambiance avec le public, ça serait passé un peu mieux peut-être.
Après,
à ce moment-là en tout cas.
Du coup, moi je vais essayer d'effacer un peu ces images-là et de garder quand même les images du mardi dernier, le match face à Caen.
On va revenir justement sur ce match. D'abord, si on peut avoir aussi la réaction de AKMJ sur la montée. How was your first reaction when you learned that you will be champions of National One?
It's kind of a weird reaction because we learn after we lose. For me, it was very shocking because. You get the feeling of, you win a big game to become the champion. And no, not to discredit, we worked hard to, be able to have the lead of games or more points than the other team. Not to discredit us, we worked hard for that. But, sports movie, you feel that, it's a game winning shot to, stand on the court and, win a game or something like that. So at first it was much, much more, a little, I had to get used to, I had to understand that we worked hard to be able to win like this. But at first it was, kind of confusing, but I was happy to know that I was more happy that we got to finish early, that we get to finish the season early and not have to play in playoffs, and I get to, I guess, go home early. So I think that was more exciting than, winning at the time because we had lost to Louvre.
Du coup, c'était un peu bizarre comme sensation, un peu bizarre. Parce qu'il parle aussi, normalement dans les films, on voit la victoire à la dernière seconde, dans les derniers instants. Il veut pas, par contre, enlever du crédit au travail de l'équipe qui a beaucoup travaillé pour arriver là. Mais en tout cas, c'était un peu confus, mais en tout cas, il était quand même très satisfait de ce match. Du coup, par rapport au match à Caen, devant le public, c'était vraiment un gros rendez-vous. Tim, il y avait plus de 3000 spectateurs, il y avait des tribunes en plus, c'était un truc un peu de fou. Raconte-nous un peu justement comment vous avez vécu ce match.
Non, c'est vrai que c'était bien parce qu'en plus on gagne ce match-là avec la manière, je dirais. Donc c'est vrai qu'on finit bien, on finit sur une bonne note, donc c'est ce qu'on voulait aussi, que le public garde une image positive, une dernière image positive de ce groupe-là. Donc c'était top, et comme tu dis, il y a eu 3000 personnes. Apparemment, les matchs où il y avait autant de monde, c'était les derbies entre l'ABC et l'autre club qui était à Angers à l'époque. Donc, c'est vrai
Et encore à l'époque, j'ai connu à l'époque où ils étaient en Pro B. C'était pas forcément ça le comble à chaque fois. Ça restait très rare quand même. Ouais.
Non, c'est sûr. Donc ça nous a fait quelque chose. Avec AKMJ au début de saison, on s'était dit qu'on aimerait gagner beaucoup de matchs et que le gymnase puisse être rempli comme de cette manière-là. Donc c'était aussi un objectif de rempli.
Et justement, est-ce que c'était la plus belle ambiance que vous avez eue cette saison à Jean-Bouin?
Ouais, je dirais que c'était la plus belle parce qu'en plus à la fin il y a la remise des médailles, du trophée, on a tous célébré avec nos familles. Donc oui, c'était une belle ambiance. Après, je retiens aussi le match face au Havre où la salle a explosé à quelques moments. Le match face à La Rochelle aussi, où il y a eu une très belle ambiance aussi. Donc encore merci aux supporters, merci aux supporters qui ont été fidèles tout au long de la saison pour leur soutien inconditionnel, parce que c'est vrai que ça nous fait énormément de bien quand la salle explose comme ça. Nous, ça nous galvanise aussi, donc on a besoin d'eux et on espère qu'ils seront encore là la saison prochaine.
Les gars, est-ce que vous avez des questions à poser? Allez, 53.
Non, on a fait le tour, je pense, en termes d'ambiance. C'est vrai que voilà, c'est aussi bien chez les gars que chez les filles cette année. Ça a été bien rempli. Enfin, pour avoir commenté deux matchs, c'est vrai qu'à chaque fois, on a salué la qualité du public en juin. Quoi.
Faustin, t'as une question à poser ou pas?
Ouais, moi je me demandais, c'est peut-être un peu prématuré, mais savoir comment vous appréhendez la saison prochaine. Si vous pensez aussi qu'il y aurait des potentiels recrutements ou des choses comme ça?
Non, là je t'avoue que pour l'instant on profite encore. On se prend pas encore la tête, je dirais ça comme ça, mais non, on profite encore du titre. C'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qu'on a réalisé. Donc, ce qui en est de la saison prochaine, non, on n'en parle pas encore vraiment.
Et puis encore peut-être des célébrations officielles vis-à-vis de la Ligue, des choses comme ça, avant les vacances, non?
Après, non, nous, notre dernière obligation, entre guillemets, parce que je dirais c'est même pas une obligation parce qu'on prend tous du plaisir à être là à chaque fois, mais c'est, on va visiter une cave aux alentours de Saumur, je crois que c'est vendredi ou jeudi, il me semble. Enfin bref, du coup non, on a encore ce dernier événement ensemble et puis ensuite on est libre de partir rejoindre nos familles, partir du 22.
Et voilà, merci beaucoup les gars pour cette d'être venus du coup dans Génération Sport. Encore bravo pour cette belle victoire, surtout ce beau succès, ce beau titre de champion de France de Pro B. Donc congratulations.
Deux titres cette année pour la ville d'Angers, c'est quand même beau.
Comment ?
Deux titres pour la ville d'Angers.
C'est ça,
cette
année. Il y a donc les Ducs en Coupe de France et puis voilà, il y a l'EAB qui
alors
qui
par
brille.
Contre, je tiens à signaler qu'ils sont pas encore champions de Pro B. Hein. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire, mais ils sont pas encore champions.
Tout, c'est à la fin de journée.
Je rappelle-toi, on avait dit ça pour la Coupe de France et ça s'est réalisé. Donc
c'est ça.
On espère souhaiter.
on peut souhaiter pour l'année prochaine. Peut-être pourquoi pas. Non, mais ce serait peut-être un peu trop.
Plus le maintien déjà de prévu, peut-être dans les premiers mots.
Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, là on profite encore et puis on pense pas encore trop à la saison prochaine.
De toute façon, on aura l'occasion, que ce soit avec vous ou avec d'autres, d'évoquer justement cette saison qui démarrera la saison prochaine, tout simplement, en temps voulu. Félicitations encore une fois et puis profitez de ces vacances bien méritées en famille ou entre amis.
Donc c'est la fin de Génération Sport. Encore merci aux deux joueurs de l'AB d'être venus. Un petit point sur le match de Cholet qui joue en ce moment donc contre Le Portel. Les Choletais mènent 45-41 dans le troisième carton qui vient de débuter. On va donc se quitter, messieurs, après donc cette très belle émission. La semaine prochaine, on va encore une fois parler anglais avec la Croate Ivas Jonjac qui va venir donc pour parler de l'UFAB 49. Cette fin de saison qui, elle, n'est pas terminée et qui s'annonce très palpitante avec ses playoffs en ligne de mire. On vous souhaite une bonne fin de journée sur Radio G.
On voit que c'est la fin de journée.
C'est la fin de journée, c'est vraiment très dur. Avec Imaginaire qui arrive juste après. Et puis on vous laisse avec la suite des programmes.